France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Entretien avec Witold Gombrowicz par Gilbert-Maurice Duprez, première diffusion 1970, troisième entretien cette nuit. Witold Gombrowicz s'est imposé en 1937 avec un roman, Ferdi Dörck, qui fit scandale dans son pays, la Pologne, et qui demeure encore aujourd'hui son ouvrage le plus lu. Il avait publié en 1933 auparavant « Mémoire au temps de l'immaturité, des nouvelles », également intitulé « Bacacay ». Son célèbre journal, qui s'étend pour la rédaction de 1953 à 1966, est tissé de ses réactions personnelles. Il est toujours disponible chez Gallimard. Au long de ce troisième entretien, Witold Gombrowicz va dire en quoi consiste la contradiction de l'adulte, une nostalgie de l'état de jeunesse pourtant imparfait. Il nous dira aussi pourquoi il n'aime pas l'œuvre de James Joyce. Il la juge ennuyeuse et l'oppose, par exemple, à celle de Thomas Mann ou de Jorge Luis Borges, qu'il a pu connaître en Argentine.
Witold Gombrowicz, revenons en arrière, si vous le permettez. Revenons à cette polonité qui vous hante. Il me semble que, voulant chasser une certaine polonité de la culture polonaise, qui est la vôtre, vous en revendiquiez une autre. Ne serait-ce que par le fait que vous avouiez implicitement que d'être polonais vous pousse à développer telle ou telle thèse sur l'adolescent et l'adulte, sur la maturité et l'immaturité.
Non, non, je m'excuse, ce n'est pas ça. Moi, si je suis polonais, c'est contre moi-même, pour ainsi dire, parce que je suis forcé d'être ce que je suis. Je ne nie pas naturellement ma langue polonaise, ni ma culture polonaise, mais de toute façon, mon effort personnel va entièrement vers l'universel. C'est-à-dire que je ne vais pas être un écrivain polonais, je ne vais pas être un écrivain pour les Polonais, je vais être pour tout le monde et je vais être moi-même Gombrowicz et personne de plus. Non un Polonais Gombrowicz, tout court Gombrowicz. Moi, c'est un certain monde que moi je vais imposer, n'est-ce pas? Et tout ça, moi je suis dans ce sens-là peut-être un individualiste acharné, et même un égotiste, et même un égocentrique. Et ainsi on dit cela, je crois, ou égocentrique, n'est-ce pas?
Mais il n'empêche qu'il y a l'exil dans le no man's land culturel argentin. Et en vous disant l'autre jour que, par une certaine situation historique, vous vous vouliez, avant même l'exil véritable, l'exil physique, un exilé, je pensais à Joyce.
Encore que vous soyez l'un et l'autre à des pôles différents de l'exil.
Joyce est mon ennemi mortel. C'est un paradoxe divers parce que moi je suis un écrivain évidemment d'avant-garde et moderniste. Mes ouvrages sont plutôt difficiles, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de problèmes qui me rapprochent de Joyce. Mais quand même, premièrement, génie à Joyce, le génie. Je trouve que c'est un auteur qui a été trop réclamé, qui, à vrai dire, n'a pas fait grand-chose, il n'a pas apporté grand-chose à la littérature. Et après, je suis absolument contre la tendance moderne de faire une littérature justement joycienne, une littérature ennuyeuse. J'ai dit une fois à Butor que je considère que chaque personne qui me dit qu'elle a lu Ulysses de Joyce est un menteur. Alors Butor m'a dit, moi j'ai lu Ulysses 4 fois. Alors moi j'ai dit, mon cher, Si je ne fais pas un examen et vous ne le prouvez pas le contraire, je vous déclare 4 fois menteur, parce que je ne peux pas croire qu'on puisse lire Ulysses de Joyce à la fin. On les lit comme on lit les livres modernes, c'est-à-dire par-ci, par-là, quelque chose, et on les laisse par cette rose en lui.
Moi aussi, j'ai lu Ulysses 4 fois. Mmh. De bout en bout.
Ouais, écoutez, alors je vous déclare, vous savez...
À Berlin, Michel Butor a été pour moi d'une gentillesse touchante. Il était assidu à mon chevet.
Journal Paris-Berlin.
Quand je sortais à peine de mes grippes.
Page 158.
Et moi, 59. Je l'ai payé de retour par des attaques dirigées contre son credo artistique le plus cher. Pas joli, direz-vous. Eh bien, je vous répondrai que tout artiste est même contre son gré, car l'art approfondi doit être un phénomène dramatique. Ainsi donc, les contacts noués entre artistes, fussent-ils momentanés, ne sauraient jamais avoir le goût d'un brouet tiède et fadasse. Maudite engeance de Joyce, maudit ceux qui, tout doucement et sans émoi, cultivent comme lui la littérature pour la littérature, un art raffiné, ésotérique, dont les supports sont formés par un noyau d'initiés, tandis que moi je m'ennuie, je me dessèche, tandis que j'agonise. Mais il n'y avait pas que Butor, pas que Berlin. L'Europe entière m'avait tout l'air d'un cheval qui, de son plein gré, glisse sa tête dans le harnais. Si humble, filant si doux, débordant de la meilleure volonté envers toute théorie, et si constructif, si positif et méthodique, si cérébraux qu'ils étaient tous.
Dans ces choses-là, je suis implacable, c'est-à-dire que je procède toujours en examinant. Si j'avais ici le volume de Joyce, je vous pose des questions, vous rappelez, vous répondez bien, alors je me déclare vaincu.
Je ne disais pas que je le sais par cœur.
Ouais. Qui a lu les monologues de Joyce de 80 pages personne? Je considère que la littérature moderne devient chaque jour plus ennuyeuse et que c'est aujourd'hui le danger principal, la question la plus importante qui se pose. La littérature doit retrouver son charme, sa poésie, sa passion, toutes ces choses-là qui ont fait d'elle une chose attractive, n'est-ce pas, qui lui ont donné, pour ainsi dire, le sex appeal, n'est-ce pas? Hélas, la tendance moderne, c'est tout le contraire. Et je crois que c'est justement Joyce qui est le coupable principal de cette évolution désastreuse.
Oui, mais alors là, je vais peut-être vous mettre en accusation, si vous le permettez.
Voilà, écoutez, si ça sera une bonne discussion, c'est la meilleure chose.
Je crois qu'on peut être d'accord. Effectivement, Joyce a orienté la littérature dans un chemin purement technicien. Le romancier devient une sorte de joaillier des mots et plus l'assemblage des mots. Et à l'intérieur de ces mots, plus l'assemblage des syllabes même est compliqué, plus l'œuvre est censée être sinon belle, du moins réaliste, mieux réelle par elle-même. Et il me semble que vous-même avez attiré l'attention sur la difficulté de rendre la réalité. Or, nous nous trouvons actuellement devant une réalité qui est de plus en plus difficile à dire. Que ce soit cette réalité qui est la vérité de l'écrivain, ou que ce soit la vérité objective, ou même le rapport de l'un et de l'autre.
Évidemment, mais quand même vous avez des écrivains modernes qui ont su, avec toutes ces difficultés, faire une œuvre magnifique. Par exemple, disons Thomas Mann, l'Allemand qui n'est pas peut-être assez admiré en France comme il devrait l'être. De sorte que ça, ce n'est pas une difficulté. Moi, je trouve que surtout, il faut être quelqu'un. Avec Thomas Mann, vous voyez une personnalité supérieure, avec une énorme sensibilité, avec des idées extrêmement intéressantes, avec toute une passion, tout un charme, n'est-ce pas, qui vous séduit. Tandis que tout cela, je ne vois pas en Joyce. En Joyce, je vois seulement une certaine tension comme qui c'était un bourdonnement. Je m'excuse pour cette comparaison un peu peut-être simpliste. Mais en tout cas, je ne vois rien dans lui qui puisse m'intéresser tellement. Et je trouve que la littérature, c'est surtout question de la personnalité. Si vous avez quelque chose à dire, si vous êtes poète, si vous voyez la beauté, si vous êtes en contact, si il faut être quelqu'un pour faire de la littérature, alors moi je trouve que avec Joyce, le métier, la technique, une invasion de problèmes plutôt scientifiques, peut-être même qu'existentiels, alors, ils ont envahi la littérature et aujourd'hui, il n'y a pas pour moi très peu de grandes personnalités et très peu de personnes qui puissent donner ce qui est justement l'essence de l'art, c'est-à-dire la beauté, l'attraction, la fascination, toutes ces choses-là qui sont absolument nécessaires. Mais si vous avez un roman, vous dites qu'il est très bon, mais vous ne pouvez pas le lire parce qu'il est ennuyeux, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais je m'étends plus longuement sur ses premiers pas, car les suivants leur ont beaucoup ressemblé. Sylvina était une poétisse. Son mari était auteur de romans.
Journal 1953-1956.
Et ce ménage cultivé
235.
Baignait toute la journée dans la poésie et la prose, fréquentant expositions et concerts, étudiant les nouveautés parisiennes et complétant sa discothèque. Seulement, au même dîner assistait également Jorge Luis Borges, le plus grand sans doute des écrivains argentins, dont les souffrances personnelles avaient aiguisé l'intellect. Quant à moi, j'estimais, à tort ou à raison, que l'intellect est un passeport qui donne à mes simplicismes le droit de vivre dans un milieu civilisé. Même en passant sur la mauvaise élocution de Borges, en passant sur mon impatience, mon orgueil et ma mauvaise humeur, suscitées par ce douloureux exotisme et mon emprisonnement dans l'élément étranger, quelles étaient mes chances d'arriver à m'entendre avec une Argentine intellectuelle aussi esthétisante que philosophante? Ce qui me fascinait, moi, dans ce pays, c'était les bas-fonds. Or, j'étais là reçu dans la haute société. J'étais, moi, envoûté par la ténèbre du Retiro, eux, par la ville-lumière, Paris. Pour moi, la jeunesse inavouée et silencieuse de ce pays était la vibrante confirmation de l'état sentimental où je me trouvais, grâce à quoi l'Argentine m'avait entraîné comme une mélodie ou l'annonce d'une mélodie. Eux n'y voyaient aucune beauté. Pour moi, s'il y avait en Argentine une chose atteignant à sa pleine expression d'art, de style, de forme, cette chose-là n'apparaissait qu'au stade précoce, celui de l'adolescent, jamais dans l'adulte. Qu'est-ce qui, dans l'adolescent, est important? Ni la raison, ni l'expérience, ni le savoir, ni la technique. Ces éléments sont toujours pires et moins accomplis que dans un homme fait et affirmé. Mais justement, exclusivement, sa jeunesse. C'est elle qui forme son unique atout. Cette élite argentine ne voyait dans la jeunesse aucun atout. Il faisait plutôt penser à des jeunes gens diligents, polissés, dont la seule ambition est d'apprendre au plus tôt des grandes personnes le secret de leur état de grande personne. Ah, ne pas être jeune, posséder une littérature mûrie, égaler la France et l'Angleterre, devenir adulte, vite adulte. Comment d'ailleurs auraient-ils pu être jeunes, puisqu'en eux-mêmes ils étaient déjà d'un certain âge? De plus, leur situation personnelle jurait avec la jeunesse générale du pays, et leur appartenance à la haute société excluait toute chance d'union réelle avec les couches inférieures. Un Borges, par exemple, sans contact avec la base, les fondations, ne tenait compte que de ses propres années. C'était un homme mûr, cet artiste et intellectuel, qu'un pur hasard avait fait naître en Argentine. Lui qui eût pu fort bien, mais encore mieux, naître en plein Montparnasse.
Cet entretien a été diffusé pour la première fois le 16 janvier 1970.